Point de vue est en ligne avec le professeur André Vacheron, cardiologue, ancien président de l'Académie nationale de médecine et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre également du comité de pilotage de l'Observatoire national de fin de vie, mis en place il y a un an par le ministère de la Santé. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, madame.
Merci d'être avec nous pour nous donner votre point de vue sur l'euthanasie, sujet largement débattu. La proposition de loi visant à légaliser l'aide médicale pour mourir a été repoussée par le Sénat ce mercredi 26 janvier 2011 par 170 voix contre 142. Et nul doute que le débat reste ouvert et que ce sujet sera de nouveau abordé par les assemblées parlementaires en 2012 et en 2013. Il semble que selon un sondage Opinionway réalisé sur 1015 personnes du 7 au 10 janvier 2011, 60% des Français préfèrent le développement des soins palliatifs à la légalisation de l'euthanasie. Mais, professeur, que faut-il entendre exactement par le mot euthanasie ? Est-ce un droit à mourir ou un permis d'accorder la mort sous certaines conditions ?
Non, dans sa définition la plus courante, l'euthanasie est l'acte qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie. Elle est aussi fréquemment qualifiée de mort douce. C'est un acte qui provoque la mort, voyez-vous. Et à l'heure actuelle, dans notre législation française, l'euthanasie est un meurtre.
C'est effectivement considéré comme cela actuellement. L'euthanasie est-elle, de votre point de vue, une alternative aux soins palliatifs ?
Absolument non. Ce n'est pas une alternative aux soins palliatifs. Les soins palliatifs sont destinés à accompagner un patient, une personne, dans sa fin de vie, en lui évitant la souffrance, en lui apportant autant que possible la sérénité, en lui enlevant l'angoisse. Et ce n'est pas du tout l'acte qui tue un malade. L'euthanasie est un acte qui tue un malade.
Oui, vous
qui
dites...
tue un malade ou qui tue une personne qui n'est pas malade. Ce peut être effectivement, comme l'on peut le constater dans certains pays qui sont assez voisins du nôtre, comme la Suisse, ça peut être une aide au suicide, n'est-ce pas ? Ça peut être un suicide assisté. Mais dans tous les cas, l'euthanasie est en quelque sorte un homicide.
Donc c'est la dérive majeure, si cette loi était passée, c'était la dérive à craindre.
Eh bien, la dérive majeure, voyez-vous, la dérive majeure, c'est qu'à partir du moment où on légalise cet acte de donner la mort, qu'un être humain donne la mort à un autre être humain, nous en retirions la vie à une personne humaine, eh bien, il est évident que c'est un acte qui est absolument un véritable homicide et qui est absolument différent de ce que nous appelons la fin de vie médicalisée, qui s'interdit dans la loi Leonetti tout acharnement thérapeutique, qui permet de terminer l'existence sans souffrance, qui assure le respect des volontés librement exprimées. Dans la loi Leonetti, un patient, une personne qui a demandé qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, qui a refusé même les soins de prolongation avec des traitements inutiles, eh bien, cette personne, nous respectons sa volonté. Mais dans les soins palliatifs tels qu'ils ont été définis par la loi Leonetti, il n'y a en aucun cas de geste létal pour abréger la vie, pour obtenir une mort plus rapide.
Autrement dit, s'il y a une aide à mourir, car je remarque que le texte proposé par les partisans de l'euthanasie n'utilise pas le mot euthanasie, mais bien le mot aide à mourir,
voilà,
il y a forcément un acte.
Et dans la loi qui était proposée au Sénat, il était indiqué que l'on ferait bénéficier ces personnes d'une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. C'est-à-dire que les médecins étaient impliqués dans cet acte d'euthanasie.
Et de votre point de vue, ça, c'est le mauvais côté.
C'est absolument impensable d'impliquer actuellement, dans notre éthique actuelle, tout au moins en France, un médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. C'est l'article 38 de notre code de déontologie médicale. Et pour moi, il serait inacceptable que la relation de confiance entre une personne et son médecin, notamment quand elle concerne des personnes âgées, que cette relation de confiance puisse être ébranlée par le pouvoir de donner au médecin de mettre un terme à la vie de celui qu'il a le devoir d'accompagner. Et non, il n'a pas le droit de tuer.
Alors revenons justement sur ces dérives qui sont à craindre. Y a-t-il un risque de confondre l'aide à mourir avec l'aide au suicide ?
Mais oui, si vous voulez, à partir du moment où une loi autoriserait, ou autorisera, parce que tout peut être possible un jour, autorisera l'assistance médicalisée pour mourir, il y aura bien sûr un certain nombre de règlements, un certain nombre de réserves réglementaires, d'encadrement, mais la porte finalement sera ouverte à la dépénalisation de toutes les formes d'euthanasie. Finalement, ça finira par déborder sur l'euthanasie des déprimés, l'euthanasie des personnes très âgées en fin de vie, l'euthanasie des malades atteints d'Alzheimer, des personnes les plus vulnérables que le grand âge ou la maladie affaiblit au point qu'elles perdent leur autonomie de décision. Et on en arrivera peut-être à tuer par motif égoïste, parce qu'on a envie de supprimer des grands-parents qui finalement vous encombrent, ou par motif économique, parce que les 850 000 Alzheimer que nous avons en France coûtent très cher, voyez-vous. Et je pense que ces dérives sont absolument abominables et contraires à toute éthique.
Néanmoins, professeur, il faut admettre tout de même des cas exceptionnels, et il y en a eu dans l'actualité. Quelle est votre réponse face à cette situation ?
Eh bien, ma réponse est la suivante. Je pense que dans les situations exceptionnelles, comme celle du jeune Vincent Aubert, qui était un garçon qui a eu un abominable accident de la circulation à l'âge de 20 ans, qui s'est retrouvé quadriplégique, complètement paralysé, mort-vivant, avec un cerveau qui fonctionnait bien dans un corps mort, c'est le cas de le dire, qui a réclamé l'euthanasie pendant 2 ans, je pense que dans ces situations, il appartient au juge, au vu des motivations, des modalités de l'aide médicale au suicide, de déterminer s'il y a lieu ou non à qualification, c'est-à-dire de recourir à une dépénalisation indirecte, si les circonstances et l'état de la personne sont telles que l'on admette à ce moment-là la relaxe pure et simple de la personne qui a aidé le demandeur à se suicider.
Alors, de votre point de vue, professeur André Vacheron, vous nous avez clairement, effectivement, fait comprendre votre position. Donc, vous êtes contre cette légalisation. Qu'avez-vous fait pour le faire savoir, à part l'interview à Canal Académie? J'entends, bien sûr.
C'est déjà une affirmation que j'ai prononcée dans le discours que j'avais fait lors de la séance de rentrée de l'Institut, quand j'ai parlé du doute en médecine. Et j'avais indiqué formellement qu'il y avait des cas où une famille ou un malade en fin de vie paraissait tellement souffrir et tellement mal dans sa survie que certains demandaient qu'on abrège cette vie malheureuse de ne pas la prolonger. Et j'avais indiqué dans ce discours de rentrée sur le doute en médecine qu'il n'y avait pas de dilemme possible, qu'il fallait recourir à des soins palliatifs qui, à l'heure actuelle, s'organisent de mieux en mieux en France. Nous avons maintenant probablement plus de 6000 lits de soins palliatifs. Nous avons 105 unités de soins palliatifs qui sont réparties dans les CHU et dans d'autres hôpitaux, dans d'autres cliniques, que les soins palliatifs peuvent même être réalisés maintenant à domicile, au domicile du patient par des équipes spécialisées, et que nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner dignement un malade en fin de vie sans appuyer sur le piston d'une seringue pour le tuer.
Merci,
ça,
professeur Vacheron.
C'est une chose que j'avais bien indiqué déjà au mois d'octobre.
Alors, je voudrais compléter cette information par 2 autres. D'abord, sur le site de l'Académie nationale de médecine, academie-medecine.fr, on trouvera le communiqué publié par cette académie. Et sur Canal Académie, on peut écouter la communication du professeur Vacheron qui est prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 31 janvier 2011 et qui donne largement plus d'informations et de précisions que ce court interview que nous venons de faire, qui permet évidemment une réflexion plus en profondeur sur ce sujet délicat. Merci, professeur Vacheron, d'avoir été avec nous pour ce point de vue.
Merci, madame. Un grand merci, parce que ces réflexions méritent d'être diffusées dans une population qui n'est malheureusement pas bien informée de toutes les possibilités que nous avons avec cette loi Leonetti du 22 avril 2005, dite loi de fin de vie.
Merci à vous.
Merci, madame.